Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'UNESCO souligne l'importance de la sécurité pour les journalistes et la liberté de la presse. L'Indonésie n'intervient pas des nouvelles des médias. Le conseil de presse souligne l'importance des journalistes de suivre le test de compétences pour éviter les cas de violence. Le conseil indonésien de la presse a déclaré que l'Indonésie était un modèle de la liberté de la presse dans le monde. Voici le journal complet. Le deuxième jour de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 à Jakarta était tenue la discussion d'une table ronde entre le ministère indonésien de la communication et de l'information, le sous-directeur général pour la communication et l'information l'UNESCO et l'ambassadeur de l'Union européenne à l'ASEAN. Dans cette discussion, ils ont discuté de l'importance des garanties de sécurité pour les journalistes en Asie du Sud-Est. Le sous-directeur général pour la communication et l'information de l'UNESCO, Frank Lahu, a déclaré que l'État devait garantir la liberté de la presse pour la liberté d'expression. Lors de la conférence de presse en marge de la mise en œuvre de la Journée mondiale de la liberté de presse 2017 à Jakarta, mardi le 2 mai, il expliquait que la liberté en question est d'obtenir des informations, de maintenir la confidentialité des sources et d'obtenir de l'information en ligne et hors ligne. Et l'État doit également donner des garanties de sécurité pour les journalistes. Nous croyons que la liberté de presse doit être soutenue par la sécurité du journaliste. Cette profession ne peut fonctionner s'il y a la violence, en particulier la violence sexuelle dans le monde ou l'intimidation. Voilà pourquoi la sécurité des journalistes est très importante et ce message que nous apportons à travers le monde. Frank Lahu a également expliqué qu'il y avait quatre éléments quand on parle de la sécurité des journalistes. Ces éléments sont les cadres juridiques qui sont liés à la sécurité des journalistes, le renforcement des capacités pour l'application de la loi et les journalistes eux-mêmes, la solution des cas de violence et le dialogue entre la communauté et les responsables de l'application de la loi. L'UNESCO encourage les pays de l'ASEAN à engager pour améliorer la sécurité des journalistes et la Commission des droits de l'homme de l'ASEAN pour créer un rapporteur régional dans le domaine de la liberté d'expression. Les journalistes ont la liberté de transmettre les nouvelles, le résultat du reportage et les faits trouvés sur le champ. Mais la presse devrait suivre toutes les règles applicables dans le code de conduite des journalistes, de sorte que son message est de maintenir la souveraineté et l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie, NKRI. Comme l'a déclaré le ministre de la Communication et de l'Information, Rudiantara, dans une conférence de presse sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse à Jakarta mardi. Depuis l'époque de la réforme en Indonésie, notre presse est libérée de la loi numéro 40. Il n'y a pas de réglementation du gouvernement et les règlements ministériels. Cela signifie qu'il n'y a pas d'intervention du gouvernement. Mais nous sommes tous les acteurs de la presse indonésienne voulant la démocratie, la liberté d'expression dans le domaine de la presse. Doit être gardé dans le couloir de la République unitaire de l'Indonésie, NKRI. Cela limite que nous devons garder dans le couloir de NKRI et toutes les professions de journalistes doivent respecter le code de conduite journalistique. En outre, le ministre Dordiantara a également déclaré que le gouvernement indonésien continuait de soutenir la liberté de la presse en Indonésie. Selon lui, ce qui limite la profession de journaliste est un code de conduite à suivre par les journalistes. Le président du Conseil de la presse, Yosep Andi Prasetyo, a déclaré qu'il y avait 78 cas de violence contre les journalistes qui se sont produits en 2016. Lors d'une conférence de presse en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 à Jakarta, mardi le 2 mai, Yosep a déclaré « L'un des facteurs qui cause la violence contre des journalistes est dû au manque de professionnalisme des journalistes. » Par conséquent, le Conseil de la presse a souligné l'importance du test de compétences des journalistes qui non seulement teste la capacité de reportage des journalistes, mais aussi la norme du comportement des journalistes dans le travail. De nombreuses violations se produisent, mais parfois la cause est due à la non-professionnalité du journaliste. Par exemple, menacer les gens, forcer les gens. Lorsque l'informateur a déclaré que j'ai été dérangé par votre travail, le journaliste fait toujours. Puis il y a eu de la violence. C'est pourquoi le Conseil de presse encourage cette compétence et importante pour les journalistes. De temps en temps, nous devons améliorer leurs compétences. Yosep Adi Prasetyo a encouragé chaque journaliste à suivre le test de compétences. Il y a actuellement 27 organisateurs de tests de compétences. Il a expliqué, lors de la Journée nationale de la presse 2017, tenue en février, le Conseil de la presse a signé un mémorandum d'accord avec le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne. Le contenu du mémorandum d'accord n'est plus une violation commise par des membres de l'armée aux journalistes. En outre, le Conseil de la presse a également signé un mémorandum d'accord avec le chef de la police indonésienne afin que les cas de violence contre les journalistes puissent être traités par la loi. Le président du Conseil de la presse, Yosep Adi Prasetyo, a déclaré que l'Indonésie était un modèle de la liberté de la presse dans le monde. Lors du 10e jour de la conférence de presse qui a eu lieu mardi le 2 mai à Jakarta, il a expliqué qu'il existe actuellement 47 000 médias en Indonésie. Ces médias se composent de 2 000 médias imprimés, 1 600 médias radio et télévisés et 43 300 médias en ligne. Selon Yosep Adi Prasetyo, la nomination de l'Indonésie en tant que l'hôte de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017, car l'Indonésie est un pays qui défend la pratique de la liberté de la presse. C'est un moment de plaisir parce que l'Indonésie est invitée par l'UNESCO à accueillir la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017. Nous savons que l'Indonésie fait partie du modèle de la liberté de la presse dans le monde. Le Conseil de la presse estime que c'est un moment important dans cette liberté de presse mondiale car nous allons partager des expériences. Yosep Adi Prasetyo a expliqué, à la fin de l'année 2016, de nombreux canulars sont venus en Indonésie. Ces canulars sont associés à une tension politique accrue. Selon lui, le gouvernement, la société civile et les journalistes s'efforcent de lutter contre les canulars. Jusqu'à présent, le nombre de canulars a diminué et se caractérise facilement. La campagne par la société civile provoque de ne pas élaborer des règles et des restrictions contre la presse. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serviteur, comme d'habitude, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, le Japon et la tension à la péninsule coréenne. En plus de la Corée du Sud, le Japon est un pays qui est profondément préoccupé par une série d'essais de missiles balistiques menés par la Corée du Nord. De certains tests, les missiles ont été dirigés vers l'est de la Corée du Nord et se sont écrasés dans la mer du Japon. C'est normal si cette fois le Japon, qui est psychologiquement perturbé par les activités de la Corée du Nord, a enfin participé dans les grands exercices militaires menés par les États-Unis et la Corée du Sud. Leurs alliés en Europe, à savoir la France et l'Angleterre, ont aussi finalement pris part aux exercices communs autour de la péninsule coréenne. La tension augmente depuis la Corée du Nord a menacé de tirer les navires américains qui approchent vers la péninsule de Corée. La Corée du Nord a mené plusieurs essais nucléaires et de missiles balistiques. Le président des États-Unis, Donald Trump, a promis d'empêcher la Corée du Nord à tirer un missile à longue portée aux États-Unis. Le président Trump a dit qu'il utiliserait tous les moyens, y compris l'attaque militaire. Pour le Japon, la livraison du navire qui porte l'hélicoptère Izumo et le navire destructeur dans l'exercice conjoint au Pacifique occidental est devenue la première depuis l'adoption de la nouvelle loi en 2015. Cette loi permet le gouvernement japonais de protéger les alliés contre la menace d'attaque. La loi elle-même a reçu de vives critiques au Japon pour avoir violé la Constitution pacifique du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Selon les opposants, l'application de la loi peut entraîner le Japon à la guerre indésirable. Malgré cela, le gouvernement japonais a continué d'envoyer des navires au terrain d'exercice. La communauté mondiale ne prévoit pas de conflit ouvert à la péninsule coréenne. De toute manière, un conflit ouvert pourrait avoir un impact sur toute la région. La Corée du Nord a besoin de réduire la menace pour que la tension diminue et les États-Unis retirent sa flotte. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Sergent Longten, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit de l'un important. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, la création du PSU le 3 mai 1960. Le Parti Socialiste Unifié au PSU se forme pour proposer une alternative au SFIO, alternative reposant sur l'anti-gaullisme, l'anti-stalinisme et surtout le refus de la guerre d'Algérie. Il trouve un soutien de force avec l'adhésion de Pierre Mendès-France. Un de ses principaux représentants par la suite sera Michel Rocard. Son départ en 1974 plongeait d'ailleurs le parti dans l'agonie jusqu'à sa dissolution en 1989. Notre information est sur la Journée internationale de la liberté de la presse. En 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a déterminé le 3 mai comme une journée pour commémorer le principe fondamental de la liberté de la presse, pour la mesure de la liberté de la presse dans le monde. Depuis ce moment, le 3 mai est célébré afin de maintenir l'indépendance de la liberté des médias de l'attaque et de rendre un hommage aux journalistes qui sont morts dans leur profession. Le 3 mai devient une journée pour encourager les initiatives publiques de participer à la lutte pour la liberté de la presse. La Journée mondiale de la liberté de la presse est aussi un élan pour rappeler au gouvernement de respecter leur engagement à la liberté de la presse. Chers auditeurs, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le nouveau record pour le TGV le 3 mai 2007. La SNCF, Alstom et RWF s'offrent un coup publicitaire de premier choix en établissant un nouveau record de vitesse sur rail 674,8 km par heure. L'objectif initialement fixé à 540 km par heure est largement dépassé, alors que la crise pétrolière redonne de l'intérêt pour le train à grande vitesse face à l'avion. Alstom cherche à démontrer sa suprématie à l'échelle mondiale. De son côté, la SNCF met ainsi en valeur sa nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg qui doit être commercialisée le 10 juin suivant. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers frères auditeurs et auditrices, c'est temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement et pour le titre, le ministre du Danemark visite les forêts de Harapan Jambi. Le ministre danois de la coopération et du développement, Ulla Tørnæs, visite la zone de restauration des écosystèmes des forêts de Harapan en résidence de Batanghari, la province de Jambi, dimanche et lundi. Le ministre Ulla Tørnæs, qui a accompagné l'ambassadeur du Danemark en Indonésie, Kasper Klings, avec sa suite, ont observé la zone de KEM de PT Restauration Écosystème Indonésia, REKI. Le ministre du Danemark et sa suite ont été accueillis des dizaines d'enfants de rang rimba de Batin 9 lors de leur arrivée dans le camp de PT REKI. Au cours de sa visite, le ministre Ulla Tørnæs a également visité la zone centrale de conservation de la forêt de Harapan. Lors de l'arrivée aux forêts Harapan, sa suite et lui ont observé l'un des lieux de surveillance au sommet de la colline de Manik, point le plus haut dans les forêts Harapan. Le ministre Ulla Tørnæs a affirmé que sa visite aux forêts Harapan était le suivi de la coopération entre le gouvernement du Danemark et l'Indonésie dans le domaine de la protection de l'environnement. À cette occasion, le ministre Ulla transmet l'admiration quand il regarde directement l'état des forêts Harapan, les forêts tropicales naturelles. Il a dit que les forêts Harapan étaient les forêts tropicales à Sumatra qui ont un rôle important en tant que contributeur à l'oxygène. Ces forêts tropicales ont un rôle très important dans la communauté internationale, a déclaré le ministre Ulla Tørnæs. Les forêts Harapan sont les zones capables de réduire des émissions de carbone qui pourraient avoir un effet sur le changement climatique. Il est important de maintenir l'existence des forêts Harapan d'être durable, en raison de la destruction des forêts influencera le climat mondial. Pour lui, l'existence des forêts devient très importante, y compris la préservation des flores et faunes qui vivent dedans. Auparavant, à la fin de 2016, l'ambassadeur du Danemark en Indonésie, Kasper Klings, a également visité la région de PT REKI et a signé l'aide accordée aux forêts Harapan à 160 milliards rupiah. La coopération entre le gouvernement du Danemark et les forêts Harapan a été lancée en 2012 à 2015, avec le total de décaissements de 120 milliards rupiah. Ensuite, la coopération a été poursuivie en 2016 jusqu'à 2018 avec la valeur de l'aide de 40 milliards rupiah, si bien que le total atteint à 160 milliards rupiah. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir. Le deuxième jour de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 à Jakarta a été tenue la discussion d'une table ronde entre le ministère indonésien de la communication et de l'information, le sous-directeur général pour la communication et l'information l'UNESCO et l'ambassadeur de l'Union européenne à l'ASEAN. Dans cette discussion, ils ont discuté de l'importance des garanties de sécurité pour les journalistes en Asie du Sud-Est. Le sous-directeur général pour la communication et l'information de l'UNESCO, Frank Lahou, a déclaré que l'État devait garantir la liberté de la presse pour la liberté d'expression. Lors de la conférence de presse en marge de la mise en œuvre de la Journée mondiale de la liberté de presse 2017 à Jakarta, mardi le 2 mai, il a expliqué que la liberté en question est d'obtenir des informations, de maintenir la confidentialité des sources et d'obtenir de l'information en ligne et hors ligne. Et l'État doit également donner des garanties de sécurité pour les journalistes. Nous croyons que la liberté de presse doit être soutenue par la sécurité du journaliste. Cette profession ne peut fonctionner s'il y a la violence, en particulier la violence sexuelle dans le monde ou l'intimidation. Voilà pourquoi la sécurité des journalistes est très importante et ce message que nous apportons à travers le monde. Frank Lahou a également expliqué qu'il y avait quatre éléments quand on parle de la sécurité des journalistes. Ces éléments sont les cadres juridiques qui sont liés à la sécurité des journalistes, le renforcement des capacités pour l'application de la loi et les journalistes eux-mêmes, la solution des cas de violence et le dialogue entre la communauté et les responsables de l'application de la loi. L'UNESCO encourage les pays de l'ASEAN à engager pour améliorer la sécurité des journalistes et la Commission des droits de l'homme de l'ASEAN pour créer un rapporteur régional dans le domaine de la liberté d'expression. Les journalistes ont la liberté de transmettre les nouvelles, le résultat du reportage et les faits trouvés sur le champ. Mais la presse devrait suivre toutes les règles applicables dans le code de conduite des journalistes, de sorte que son message est de maintenir la souveraineté et l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie, NKRI. Comme l'a déclaré le ministre de la Communication et de l'Information, Rudiantara, dans une conférence de presse sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse à Jakarta mardi. Depuis l'époque de la réforme en Indonésie, notre presse est libérée de la loi numéro 40. Il n'y a pas de réglementation du gouvernement et les règlements ministériels. Cela signifie qu'il n'y a pas d'intervention du gouvernement. Mais nous sommes tous les acteurs de la presse indonésienne voulant la démocratie, la liberté d'expression dans le domaine de la presse. Doit être gardé dans le couloir de la République unitaire de l'Indonésie, NKRI. Cela limite que nous devons garder dans le couloir de NKRI et toutes les professions de journalistes doivent respecter le code de conduite journalistique. En outre, le ministre Rudiantara a également déclaré que le gouvernement indonésien continue de soutenir la liberté de la presse en Indonésie. Selon lui, ce qui limite la profession de journaliste est un code de conduite à suivre par les journalistes. Le président du Conseil de la presse, Joseph Andi Prasetyo, a déclaré qu'il y avait 78 cas de violence contre les journalistes qui se sont produits en 2016. Lors d'une conférence de presse en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 à Jakarta, mardi, le 2 mai, Joseph a déclaré « L'un des facteurs qui cause la violence contre des journalistes est dû au manque de professionnalisme des journalistes. » Par conséquent, le Conseil de la presse a souligné l'importance du test de compétences des journalistes qui non seulement teste la capacité de reportage des journalistes, mais aussi la norme du comportement des journalistes dans le travail. De nombreuses violations se produisent, mais parfois la cause est due à la non-professionnalité du journaliste. Par exemple, menacer les gens, forcer les gens. Lorsque l'informateur a déclaré que j'ai été dérangé par votre travail, le journaliste fait toujours. Puis il y a eu de la violence. C'est pourquoi le Conseil de presse encourage cette compétence et importante pour les journalistes. De temps en temps, nous devons améliorer leurs compétences. Joseph Adi Prasetyo a encouragé chaque journaliste à suivre le test de compétences. Il y a actuellement 27 organisateurs de tests de compétences. Il a expliqué, lors de la Journée nationale de la presse 2017, tenue en février, le Conseil de la presse a signé un mémorandum d'accord avec le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne. Le contenu du mémorandum d'accord n'est plus une violation commise par des membres de l'armée aux journalistes. En outre, le Conseil de la presse a également signé un mémorandum d'accord avec le chef de la police indonésienne afin que les cas de violence contre les journalistes puissent être traités par la loi. Le président du Conseil de la presse, Joseph Adi Prasetyo, a déclaré que l'Indonésie était un modèle de la liberté de la presse dans le monde. Lors du 10e jour de la conférence de presse qui a eu lieu mardi le 2 mai à Jakarta, il a expliqué qu'il existe actuellement 47 000 médias en Indonésie. Ces médias se composent de 2 000 médias imprimés, 1600 médias radio et télévisés et 43 300 médias en ligne. Selon Joseph Adi Prasetyo, la nomination d'Indonésie en tant que l'hôte de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017, car l'Indonésie est un pays qui défend la pratique de la liberté de la presse. C'est un moment de plaisir parce que l'Indonésie est invitée par l'UNESCO à accueillir la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017. Nous savons que l'Indonésie fait partie du modèle de la liberté de la presse dans le monde. Le Conseil de la presse estime que c'est un moment important dans cette liberté de presse mondiale car nous allons partager des expériences. Joseph Adi Prasetyo a expliqué, à la fin de l'année 2016, de nombreux canulars sont venus en Indonésie. Ces canulars sont associés à une tension politique accrue. Selon lui, le gouvernement, la société civile et les journalistes s'efforcent de lutter contre les canulars. Jusqu'à présent, le nombre de canulars a diminué et se caractérise facilement. La campagne par la société civile provoque de ne pas élaborer des règles et des restrictions contre la presse. Serge Tak, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serge Tak, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Cette fois, nous vous présentons la boisson typique de Jember. Alors, restez avec nous sur la Voix d'Indonésie, le service international de la RRI. Outre les écoutes, vous pouvez aussi écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Jember est l'une des villes de la province de Java East qui se situe à environ 5 heures de la ville de Surabaya. Bien que la distance soit assez longue à partir de la capitale de Java East, il y a beaucoup de touristes qui visitent Jember. Parce que cette ville offre de nombreux sites touristiques intéressants. Mais cette fois, nous vous présentons une boisson typique de Jember appelée Wedang Cor. Cette boisson est bien connue, notamment chez les jeunes, parce que cette boisson peut réchauffer le corps surtout la nuit, surtout en saison de pluie. À l'état de la boisson Wedang, ils peuvent également se détendre en groupe. Pourquoi cette boisson est-elle appelée Wedang Cor? Selon l'histoire, c'est parce que la façon de la remuer ressemble aux gestes que font les gens en train de forer ou en indonésien mengecor. Les ingrédients utilisés pour préparer la boisson Wedang Cor ne sont pas difficiles à trouver parce que c'est seulement un mélange de riguan noir fermenté, de lait condensé, de sucre blanc et de gingembre. Tous les ingrédients sont remués ensemble et ensuite servis chaud dans un verre. Le goût est sucré, acide et salé. C'est très délicieux à boire à la nuit. La personne qui n'aime pas le lait peut également profiter de Wedang Cor, car la saveur du lait est neutralisée par le goût acide du riz gluant noir fermenté. Quand on consomme cette boisson, habituellement on l'accompagne de tempeh et de tofu frites avec une sauce de crevettes, de bananes frites qui sont tout vendues à l'état frais directement de la wajan ou de la poêle. L'étal de Wedang Cor est ouvert habituellement à 20h à 1h du matin. Le prix d'une tasse de Wedang Cor n'est que 3000 rupiah. Bien que l'endroit de Wedang Cor est dans une ruelle étroite, mais cela ne freine pas l'intérêt des visiteurs. Cette boisson est bon marché, mais les acheteurs peuvent aussi se détendre en goûtant la goutang, car ils peuvent s'asseoir sur une natte. Cette nuance confortable permet aux visiteurs d'être en mesure d'oublier leurs soucis. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Wedang Cor. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler l'indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est « Membatalkan rencana » ou en langue française « Annuler le plan ». Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Hallo, hallo, en français, bonjour. Bagaimana, bagaimana, en français, comment. Rencana, rencana, en français, plan. Malam hari ini, en français, ce soir. Mungkin, mungkin, en français, peut-être. Lupa, lupa, en français, oublier. Pergi, pergi, en français, aller. Ke toko buku, en français, à la librairie. Maaf, maaf, en français, désolé. Tidak bisa, tidak bisa. En français, ne pas pouvoir. Mengantar, mengantar. En français, conduire. Pergi, pergi. En français, aller. Adik, adik. En français, sœur ou frère. Ke dokter. En français, chez le médecin. Kepastian, kepastian. En français, certitude. Aku tunggu teleponmu. Aku tunggu teleponmu. En français, je suis en attente de votre appel. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. En français, à demain. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Membatalkan rencana » ou en langue française « Annuler le plan ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre Andy A et Budi B. A. Hallo Budi, bagaimana rencana kita malam hari ini? Je répète. Hallo Budi, bagaimana rencana kita malam hari ini? En français, bonjour Budi, comment avec notre plan ce soir? B, rencana apa Andy? Rencana apa Andy? En français, quel plan Andy? A, mungkin kamu lupa ya, kita akan pergi ke toko buku malam ini. Je répète, mungkin kamu lupa ya, kita akan pergi ke toko buku malam ini. En français, peut-être vous oubliez. Nous allons à la librairie ce soir. B. Oh, maaf, saya tidak bisa pergi denganmu malam ini. Saya harus mengantar adik ke dokter. Je répète. Oh, maaf, saya tidak bisa pergi denganmu malam ini. Saya harus mengantar adik ke dokter. En français. Désolé, je ne peux pas aller avec vous ce soir. Je dois conduire ma sœur chez le médecin. A. Oh begitu, bagaimana jika besok malam? Oh begitu, bagaimana jika besok malam? En français, oh, donc si demain soir? B, baiklah, nanti aku telepon kamu kembali untuk kepastian. Je répète, baiklah, nanti aku telepon kamu kembali untuk kepastian. En français, d'accord, je vais vous téléphoner pour la certitude. A, baiklah, aku tunggu teleponmu. Sampai jumpa besok. Je répète. Baiklah, aku tunggu teleponmu. Sampai jumpa besok. En français. D'accord, je suis en attente de votre appel. À demain. Chers auditeurs, c'était Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même en fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de pelangi nada ou magazine de musique, édition de lundi. Ce magazine vous introduit de tel ou tel genre musical ou musicien de l'Indonésie. Pour cette édition, on vous présente le chanteur ainsi que musicien Musmudiono. Bon, pour commencer notre rencontre, allez d'abord écouter la chanson de Musmudiono intitulée Tanda-tandanya. Bonne écoute. Cher ami, Musbejono, il est né de la famille qui aime la musique, surtout le rythme de kroncong. Son grand frère, Musmulyadi, est très connu comme chanteur de kroncong. Tandis que lui, Musbejono, aime bien la musique de jazz. Depuis son petit, il est fan de George Benson, musicien et chanteur américain très connu. Donc, quand il chante ou joue de la guitare, il ressemble avec son idole. Bon, chers amis, pour continuer notre rencontre, écoutez encore la chanson de Musmujono intitulée « Arti Kehidupan ». Bonne écoute.
Yang terakhir di cintamu.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, vous avez la compétence musicale de Musmu Jono, ce fois depuis son enfance, surtout jouer de la guitare. De plus, il a composé des chansons. Et à l'âge 18 ans, il est joint du groupe band de Hans avec sa piste célèbre Hello Sayang. Et puis, son nom est de plus en plus connu avec son band The Hands. Mais plus tard, il est sorti de son groupe. Puis, il a choisi solo, en publiant des albums en nuances de jazz rock. Et vous savez, presque toutes les chansons de Musmu Jono sont populaires. Alors, beaucoup de fans qui l'aiment. Chers amis dans quatre coins du monde, c'était le magazine de musique avec le chanteur Musmu Jono. Et avant de vous quitter, allez écouter deux dernières chansons de Musmu Jono, intitulées « Satu Jam Saja » et « Mesra ». Merci de votre fidélité, attention, bonne écoute et au revoir.
Thank you.
êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.